Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast du Crayon, le média qui ose réunir. Débat, entretien profond ou sur le terrain, notre but, que vous puissiez entendre toutes les opinions françaises sans jugement ni parti pris. Tous les jeudis, retrouvez nos émissions en version podcast. Alors installez-vous confortablement, bonne émission.
L'art est amené à disparaître.
Faux.
Mes gorilles sont faciles à faire.
Faux.
Connaître l'histoire de l'art est indispensable.
Faux.
Les Français sont jaloux.
Vrai.
L'art est-il accessible à tous? Réussir est-il mal vu en France? La technologie va-t-elle remplacer l'art? Pour en parler, on a reçu Richard Orlinski.
Salut, c'est Richard Orlinski pour Le Crayon et à tout de suite.
L'artiste contemporain français le plus vendu dans le monde. À mi-chemin entre le businessman et l'artiste, il nous a raconté pourquoi il dérange autant le monde de l'art et nous a donné des pistes de réflexion quant au futur de ce domaine. D'ailleurs, vous pouvez retrouver chaque semaine notre débat de la semaine dans notre newsletter. Je vous mets le lien juste là en description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. Bonne vidéo.
L'art est absurde.
Mitigé.
On est moins créatif qu'avant.
Vrai.
Le monde de l'art est snob.
Vrai.
L'art est un luxe.
Faux.
Il y a de plus en plus d'artistes.
Vrai ou faux, j'en sais rien.
La pop culture n'est pas de l'art.
Faux.
Il n'y a pas de sous-culture.
Vrai.
La technologie est néfaste pour l'art.
Faux.
Toute œuvre a une signification.
Faux.
Le but de l'art, c'est de faire de l'argent.
Faux.
Le but de l'art, c'est de susciter des émotions.
Vrai.
L'art n'est pas accessible à tous.
Vrai. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous on développe effectivement une accessibilité à tous, de l'art pour tous. Ça dérange, on a un petit milieu bien pensant, mais en tout cas nous c'est vraiment une vocation et c'est ce qu'on cherche à faire.
Est-ce que cette volonté à tout prix de rendre l'art accessible à tous et à toutes, est-ce que ça vous est venu de l'accueil qui vous a été réservé quand vous vous êtes dit ok je vais me lancer dans le monde de l'art? Ou est-ce que c'était une volonté avant même de découvrir ce que c'était justement que ce monde de l'art?
C'est une très bonne question, j'en sais strictement rien. Mais c'est vrai que de toute façon, effectivement, a fortiori, il y a eu effectivement une source certainement qui a été identifiée à partir du moment où j'ai eu tous ces refus, où c'était assez compliqué, que je me suis rendu compte qu'on ne m'attendait pas. Et que surtout, il y avait un côté très particulier, un côté, si tu n'as pas la carte, il faut être coopté, il faut avoir suivi un cursus particulier. Et voilà, donc du coup, là, c'est effectivement... Mais je pense que... En réalité, avant, puisque moi je collectionnais plus jeune aussi les affiches, etc. Et je me suis rendu compte que de toute façon c'était quand même un milieu qui était très fermé, très particulier, et que je pensais qu'il y avait vraiment une nécessité de cette ouverture, elle avait été vraiment importante.
Donc même avant d'y rentrer, c'était
oui,
une réflexion que vous meniez
oui,
déjà.
Oui, je pense que je l'avais. Elle était moins développée forcément, puisqu'il y avait pas de, c'était pas vital. J'avais pas un besoin particulier. C'était une réflexion. Alors qu'une fois qu'effectivement on rentre dans le vif du sujet, on est confronté à certaines barrières, à certains boucliers, certaines levées de boucliers, donc il faut les combattre.
Et justement, cet écosystème artistique, à quoi il ressemble? Parce que vous le nommez souvent et vous parlez un petit peu du snobisme, notamment parisien.
Alors oui, je parle Paris parce que c'est pas tellement la France en fait, ça représente pas la France et Paris ne représente pas la France, alors n'en déplaise à certaines personnes. Et en plus, c'est un tout petit milieu bien pensant parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui aiment l'art, qui s'y intéressent. Surtout avec le street art aussi, il y a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui beaucoup démocratisées. On a accès à plein de choses. Mais ça représente, c'est un espèce de petit pouvoir d'un petit milieu qui bouge un petit peu quand même. Je pense que ça évolue un peu avec le temps. Grâce peut-être aux collaborations aussi avec les marques, enfin, les choses qui se font aujourd'hui, les gens ont compris qu'il y avait une... Mais effectivement, ça dérange. Moi, quand je mets des sculptures sur des plateaux télé, par exemple, ça fait hurler. Quand on expose à ciel ouvert gratuitement, ça fait hurler. On bypasse les musées. Enfin, il y a des raisons économiques aussi. Hein. Il y a plein de raisons. Il y a de l'ego. L'art, c'est un business traditionnel, c'est l'argent qui est roi. Dans l'art, il y a l'argent, bien sûr. Mais il y a l'ego. Et l'ego, il y a très peu de métiers. Alors, il y en a des métiers avec l'ego, mais là, c'est un des métiers où l'ego est très, très puissant, où les galeristes pensent qu'ils sont des artistes, qu'ils ont des faiseurs de rois. Enfin, il y a vraiment un... C'est très, très particulier, c'est très violent. C'est un milieu qui est très violent.
Vous l'avez vu comme ça, de manière...
Moi, je l'ai vécu. Je les ai pris, quoi. J'ai pris les claques, je les ai pris. Les barrières, je les ai pris. Et puis la violence, j'ai pris la violence. J'ai des gens qui sont avec une véhémence. On peut tuer avec l'ego. L'ego, c'est très puissant. Hein.
C'est vrai, et le milieu artistique n'est pas le seul à en être
non.
touché, mais, c'est, non, mais ça prend une certaine forme.
Voilà, parce que dans le business en général, bah, c'est l'argent, c'est ça, c'est tout autour du chiffre d'affaires, comment on va gagner, de la compétition est là, mais il n'y a pas d'ego, c'est pas personnel. Alors oui, effectivement, dans les métiers artistiques, peut-être dans le cinéma, ça joue aussi, mais c'est quand même différent. C'est quand même différent. Dans l'art, c'est plus compliqué à apprivoiser, c'est plus compliqué. Il y a des codes vraiment très particuliers, c'est plus complexe.
J'ai l'impression que ça touche un peu plus à l'intime aussi, parce que
exactement.
C'est un ressenti qui est personnel et des émotions qu'on jette sur ce qu'on veut faire.
Oui, absolument. Et puis il y a quand même des gens qui dictent. Il y a quand même une vraie dictature. Il y a une dictature. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui ont été écrits dessus. Hein, c'est pas moi qui le dis. Il y a une dictature. On t'explique qu'est-ce qu'il faut que tu penses, qu'est-ce qu'il faut que tu interprètes, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que pour moi, l'art c'est universel. Un enfant qui dessine un dessin à la maternelle, et c'est une création artistique. On aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, quand on voit certains tableaux, il y en a qui sont d'ailleurs. Moi, plusieurs fois, j'ai écouté dans des musées, mais dans des foires, etc. Des gens me disent ah ben ça c'est là, c'est mon fils de 2 ans. Il aurait été capable de faire la même chose. Donc c'est drôle, mais c'est la réalité. En fait, pour moi, on est tous des artistes, après on l'exprime d'une manière différente, mais du moins qu'on pense à quelque chose et qu'on veut en tout cas matérialiser une émotion à travers un dessin, à travers une sculpture, à travers une chanson, à travers n'importe quoi, ça c'est de l'art pour moi.
Du coup, on vous a qualifié directement le sculpteur qui divise, vu que vous n'avez pas fait l'unanimité quand vous êtes arrivé dans ce monde artistique.
Et puis j'ai dérangé parce que si j'étais resté dans mon coin et que j'avais pas acquis cette notoriété, bah, il y en a plein des comme moi qui dérangent personne, parce que je suis pas le seul. Je parle avec des artistes qui n'ont pas la tribune, qui me disent on veut pas me prendre. Même des artistes qui ont été quand même connus, par exemple le père de Marie-Lou Berry, Philippe Berry, n'a jamais été exposé dans une foire d'art contemporain, etc. D'ailleurs j'en ai parlé avec sa fille, elle voulait essayer de donner un coup de projecteur et monter une fondation, mais des comme ça, il y en a des tonnes. Et encore lui, c'est quelqu'un de connu, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui n'ont pas cet accès. Et voilà. Et donc c'est.
Ce qui a dérangé, c'est que pour vous, ça a marché.
Bah oui, c'est évidemment. C'est-à-dire qu'il y a un exemple qui est très drôle. D'ailleurs, c'était à la FIAC ou je sais plus un Sardago ou Art Paris, enfin une des foires comme ça, un des grands raouts de l'art contemporain. J'avais une amie qui, bon moi n'en parlons pas parce que moi je suis blacklisté depuis très longtemps, mais qui voulait exposer certains artistes qui n'y arrivaient pas. Elle a trouvé des artistes inconnus qu'elle a pris au Nicaragua avec des noms, ils ont été pris parce qu'ils n'ont pas eu. Voilà, c'est bien pour montrer que cette espèce d'entre-soi. Et qui est ridicule en plus, voilà.
Oui, c'est un milieu très concurrentiel finalement. Quand on ne se sent pas menacé, on ne calcule pas.
Exactement.
On se sent menacé, c'est...
Eh ben oui, et voilà, et j'en ai vraiment payé le prix fort.
Vous le sentez comment, votre réussite par rapport au paysage français? Est-ce que vous sentez que ça éveille des vocations, que c'est plutôt pointé du doigt? Et pourquoi vous, finalement, vous réfléchissez différemment de l'environnement dans lequel vous êtes?
Alors, ça éveille des vocations, oui. Parce que je reçois des noms, notamment j'ai écrit un bouquin en 2017 qui s'appelait « Pourquoi j'ai cassé les codes ?» et dedans, je donne des mantras, j'explique, alors sans aucune prétention, j'essaye de, en tout cas moi, de tirer de mon expérience et donner des leçons pour bypasser, pour aller plus vite dans certaines étapes. Et j'ai beaucoup reçu de témoignages de gens qui ont changé de vie, qui ont changé de métier, qui ont cru en leurs rêves, parce que je pense qu'il faut croire en ses rêves. Et s'écouter, croire en soi. Et donc c'est des messages qui sont passés, qui ont eu en tout cas des effets. Alors je sais pas pour 100 millions de personnes, mais en tout cas pour quelques personnes, en tout cas qui m'ont fait le retour. Après je suis pas dans la vie de chacun, donc je peux pas juger. Je vois beaucoup d'artistes qui cassent un peu les codes. Hier je parlais par exemple avec Sofiane Pamart, qui est dans son milieu, qui est critiqué aussi dans le monde parce du piano classique, parce que il a fait des trucs qui sont, c'est sacrilège, mais c'est une superstar. Aujourd'hui, il a fait un truc incroyable, c'est un mec incroyable qui a fait un... Voilà, donc il y a quand même des évolutions. Et puis, je pense qu'en France, à un moment, on force les choses, on force les gens justement qui ont ce type de réussite, ou qui sont, eh ben, ils obligent les autres à changer un petit peu leur manière de penser, quoi, parce qu'à bout d'un moment, tu peux pas dire le succès, oui, c'est un hasard, etc. Donc il y a des choses qui sont... Mais on pointe du doigt, bien évidemment. Puis en France, tout ce qui est inconnu, ça dérange. Ça fait peur, voilà, on peut être brûlé en place de grève, qu'on est hérétique.
toute la réussite de manière non conventionnelle, on va dire, en France.
Exactement. Si on n'a pas suivi, en tout cas, le chemin, t'as des artistes dont je tairai le nom, qui sont des artistes institutionnels, qui ont été cooptés, qui sont dans les fracs, dans les flags, dans tous les trucs institutionnels et qui réussissent comme ça. Et d'ailleurs, les artistes français réussissent. Il y a très peu d'artistes français qui réussissent. Donc c'est bien pour ça, je pense qu'aussi, ça, on a un problème. Parce que quand on regarde, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel. C'était dans le. Dans quel magazine économique, etc., que la France est une catastrophe, quoi. Ils parlaient de moi, ils disaient qu'on était très loin, malgré tout, moi y compris, des artistes chinois, des artistes américains, des artistes... Donc, il faut qu'on se pose les bonnes questions, mais ça fait déjà des années qu'on se les pose. J'ai lu des rapports du Conseil d'État il y a 10 ans, de l'Assemblée nationale, qui parlaient déjà de ce problème qu'on a avec l'art en France. On est des rigolos, quoi, dans le monde, en tout cas dans le monde. La France, c'est qu'il doit y avoir quelques petits problèmes. Mais maintenant qu'on a une nouvelle ministre de la Culture avec Rachida Dati, peut-être que ça va changer.
On peut espérer.
On peut espérer, ben, en tout cas c'est un peu le message et c'est un peu ce qu'on attend en tout cas de ce... Ben oui.
Est-ce que c'était dans ce sens-là que vous répondiez faux à « on est de moins en moins créatif » ? Est-ce que c'était un focus sur la France ou est-ce que c'était...
Ah non, créatif, c'était par rapport c'est par rapport aux enfants plus, c'est par rapport à tous ces smartphones et tous ces... Alors il y a des gens, des parents qui prennent conscience et qui font effectivement... qui essaient de motiver en tout cas de la créativité des enfants. Mais c'est vrai que je pense qu'avec tous ces tablettes, et c'est vrai qu'il y a un petit problème, il y a quand même beaucoup moins de communication. Il n'y a pas longtemps, j'étais au restaurant, je voyais une famille avec des enfants, chacun était avec son smartphone, personne ne parle. Il y a quand même un manque de spontanéité, un manque de créativité. Je pense que ça nuit à la créativité. Alors attention, avec cette nouvelle technologie, on arrive à faire des trucs encore plus fous et développer des trucs très très fort, mais je pense qu'on perd quelque chose en créativité avec tout ce monde numérique qui est super, qui est génial. Mais il faut savoir, je pense, arriver à bon doser. Voilà. De toute façon, l'excès, c'est jamais bon. Dans n'importe quoi, dans la nourriture, dans n'importe quoi, l'excès. Donc si on arrive aujourd'hui à doser, faire une balance, je pense, mais là oui, c'est dans ça que je pense qu'il y a une peur. Quand tu vois les gosses de 4 ans qui prennent un dessin et qui veulent zoomer avec les mains et scroller pour essayer d'agrandir le dessin,
parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous contrediraient justement sur cette opinion.
Peut-être, ouais.
Sur les nouvelles technologies dans l'art, où on a l'impression que justement ça ouvre un champ des possibles, mais peut-être que ça enferme un autre si on vous écoute.
Je dis pas que ça enferme un autre. Il faut s'en servir. Il faut tous. On a des technologies. Moi, je me sers beaucoup des nouvelles technologies. Il faut savoir s'en servir, mais il faut savoir. C'est comme les gens qui te disent bon, t'as les NFT. Et ben les NFT, du coup, c'est la disparition du physique. Le physique disparaîtra jamais. Un tableau, ça reste un tableau. Une œuvre, ça reste... c'est que des choses en plus. C'est des bonus. C'est peut-être des choses qui vont te faire. Justement, grâce au NFT, tu vas attirer un autre public de geeks dans le numérique qui vont venir s'intéresser à l'art. Donc là, c'est intéressant. La passerelle est intéressante. C'est un crossover. Mais tu peux pas. L'art physique, moi, quand j'ai fait des collections de NFT, j'ai toujours voulu relier ça à quelque chose de physique. Et c'est ce qui a fonctionné. C'est pour ça que mes collections et mes NFT, ils sont restés. Les collaborations, ils ont gardé un cours. Et je le vois encore dans la dernière collaboration que j'ai fait avec Eva Longoria sur un projet NFT. C'est resté parce qu'il y avait, c'était adossé à quelque chose de physique. Tout le reste, c'est cassé la gueule. Donc le physique, moi, je crois beaucoup au physique. Il y en a qui se marient dans le métaverse. Voilà, oui, pourquoi pas. Mais on restera, en tant qu'humain, on restera des humains. Moi, qu'on devienne des machines ou qu'on ait des clones. Mais aujourd'hui, je pense que c'est même dans X milliers d'années, ça sera toujours la même chose. Tu peux pas, ou t'es humain, ou t'es plus humain du coup. Mais voilà.
On passera à autre chose, quoi.
Voilà, exactement. Ça sera une autre.
Une autre espèce.
Une autre espèce, exactement. Une autre incarnation.
Je voulais parler aussi du documentaire Première fois au musée.
Faire ses premiers pas au musée. À 18, 20 ou 25 ans. C'est ce que font ces jeunes à la piscine de Roubaix, des spectateurs novices au cœur d'un documentaire diffusé prochainement sur TV5 Monde.
Je voulais vous demander si ça s'inscrivait justement dans cette volonté de rendre l'art accessible.
Oui.
Et comment ça fonctionne, comment ça vous est venu?
D'accord. Alors le concept, il est pas chouette, il est génial, il est extraordinaire, il est... Enfin, voilà, je n'ai pas de mots, je pense qu'il n'existe pas en langue française de mots, peut-être dans langue anglaise, je ne sais pas, je vais réfléchir. Wonderful, amazing, enfin bon. Mais ça s'inscrit. Non, en fait, moi, mon problème, c'est que je me dis, et moi, je me mets toujours en tant que consommateur des choses publiques, en fait. Toujours, j'aime bien être le public. Et je trouve que... Il n'existe pas aujourd'hui une émission qui parle d'art et qui est intéressante. Et où tu ne te fais pas chier, où tu n'as pas un truc où c'est boring, et où des gosses, même des gosses sans parler d'où ils viennent, quel que soit le milieu qu'ils soient, parce que si tu as un qui va s'intéresser à un mais il y en a sur, c'est un sur un million, hein, parce que, et donc, et même pour moi, moi ça m'emmerde de regarder une émission qui parle d'art, c'est, y a pas plus chiant. Et donc je me dis, si on arrive aujourd'hui à faire un programme où ça va être cool, ça va être sympa de le regarder, tu vas dire, ah c'est cool, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir la suite, etc. Je me dis, on aura tout gagné. C'était, pour moi, on a tenté ce truc-là, c'était pas gagné. L'idée, j'ai trouvé l'idée vachement intéressante, de prendre donc des jeunes adultes entre 18 et 25 ans, issus de milieux différents, et leur, les amener donc dans un musée, et les faire découvrir, là on a pris 5 œuvres différentes, et réagir comme eux, parce que du coup je suis public comme eux. Hein. On a une conservatrice de musée qui est là, mais moi je réagis aussi de la même manière, je pense ces choses, parce que je suis un peu comme eux, je suis pas fan des musées, moi de voir les vieux tableaux du 18e, moi ça me gave quoi. Faut pas, moi ma mère elle m'a même traîné, mais je passais dans les allées comme ça, je faisais c'est Speedy Gonzalez, hein. Et je fais encore ça d'ailleurs quand je vais dans des salons, je vois tout de suite le truc, j'arrive pas à m'attarder moi sur des œuvres, je m'imprègne des choses et bam bam bam, j'aime pas, bon après je consomme, je suis comme ça, mais je pense que les jeunes comme ça sont consommateurs de la même manière. Donc du coup on, avec ce programme, c'était vraiment surprenant, on a réussi à recueillir et surtout à changer. Quand au début, je sais pas si vous avez vu la bande-annonce, mais au début, quand tu as les jeunes filles qui disent non, mais Richard, en fait, c'est que des jeunes qui ont une aversion pour ça, qui n'ont aucune envie d'aller, qui disent qu'il n'y a pas de cas où ça va changer, je vais changer d'avis, je vais pas aller me taper un jour un musée dans ma vie, quoi, il y a no way, quoi. Et quand tu vois là, notamment une des jeunes filles qui te dit ah non, mais Richard, il ne va jamais me changer d'avis, je sais ce que c'est, ma mère, elle a déjà essayé de me traîner, laisse tomber, j'en parle même pas. Et que à la fin de l'émission, il y en a qui tu recueilles des pleurs, tu recueilles des gens qui sont émus, qui sont troublés, et qui à la fin qui disent ah bah ouais c'est génial et j'ai envie de renouveler cette expérience. Et les cinq, ils ont la même ou ils sont six, je sais plus. Enfin, en tout cas tous ces jeunes qui sont, ils te disent la même chose. Il y en a pas un qui dit bah non finalement oui c'était bien mais moi non. Et ben l'intégralité des participants, ils ont changé. Alors, j'en sais rien, je sais pas si j'ai contribué à ça certainement. D'abord, j'ai une approche assez facile, je parle comme eux, je rentre vraiment dans leur univers, donc du coup, ils sont en confiance et on échange, je critique comme eux, j'ai le même regard, et donc il se passe quelque chose, il y a une magie qui opère. Même moi, j'étais extrêmement surpris, quoi, parce que je me suis pris au jeu aussi, et du coup, je me suis même mis à limite voir des choses, apprécier des choses que j'aurais pas pu imaginer. Voir, on a une scène à un moment, on a l'impression tous qu'on la vit la scène. C'est un combat de coq et on voit pratiquement les coqs, le sang. En fait, en décrivant tout ce qui se passe, on arrive à intégrer et nous s'imaginer que la scène elle a existé quoi. Et donc ça, je trouve ça et je me dis bah là, ça fait la diff. Et quand on a montré en tout cas à plusieurs personnes, ils ont été assez agréablement surpris. Enfin, pour moi, c'est la première émission, c'est pas parce que je suis dedans. Hein. J'ai pas du tout de.
Auto-promo.
Non, j'ai pas du tout. Non, oui, un petit peu. Non, honnêtement, c'est vraiment pas parce que je suis dedans. Franchement, le programme, je le trouve cool. Dans les autres émissions, même quand je suis dedans, souvent, je les regarde pas et voilà.
Est-ce que ça ferme pas des portes, cette croyance que tout doit être interprété et qu'il faut trouver le juste sens?
C'est très intéressant parce que c'est vraiment mon dogme. En réalité, moi, je crée pour les autres, donc en vrai, j'ai pas de signification. Même si moi, j'ai pensé à quelque chose quand j'ai créé une œuvre. Là, je parle de mon parcours personnel, hein, on parle plus de l'émission. Mais en réalité, quand on va regarder une œuvre Orlinski, tu vas avoir 5 personnes qui vont regarder l'œuvre, et une va me dire ah ben c'est ça que vous avez voulu dire, je vais lui dire oui. La deuxième, elle va me dire autre chose, je vais dire oui, parce qu'en fait, l'idée. Ils vont tous avoir raison parce que l'idée, c'est de susciter de l'émotion. Et justement, si tu as réussi, que ce soit de la violence, de l'amour, de la joie, ce que tu veux, en tout cas de ressentir quelque chose, à partir du moment où tu ressens quelque chose, c'est toi qui as raison parce que tu as ressenti quelque chose. Donc, on n'en a rien à foutre de ce qu'a pensé le gars. Et moi, c'est vrai, un truc contre lequel je me bats, c'est les trucs avec les haut-parleurs. Alors, il a voulu dire ça, il a fait ci, il a fait ça, mais c'est juste gonflant en fait. C'est pas, pour moi, c'est pas ça là. Et moi, je suis beaucoup critiqué aussi pour ça par des artistes. J'ai fait des podcasts, j'ai fait des émissions où les gens me disent oui, mais c'est pas un vrai artiste. Comment tu crées pour les autres, c'est pas de l'art si tu crées pas, bah si en fait moi c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que donc il y a les deux choses. Alors, après quand tu veux effectivement il y a une œuvre politique, tu veux faire passer un message, ben pourquoi pas, why not, et donc là il y a une explication. Mais je pense que il y a un côté qu'on enlève au public, c'est la liberté, parce qu'il faut, je pense qu'il faut le donner au public, liberté. L'explication elle peut venir en appui pour quelque chose, mais il n'y a pas besoin d'avoir une signification en fait. Il faut juste s'y trouver quelque chose de beau. Il y a des gens qui s'extasient devant quelque chose, trouvent ça beau, ben c'est génial, pourquoi tu as besoin d'aller chercher une explication dans la beauté.
Je vous arrête deux petites secondes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que l'art est accessible à tous. je vous remets la vidéo.
Parce que c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de dogme où faut être devant un tableau et saisir le truc, ou être devant une œuvre et saisir le truc, de manière générale. Je trouve que ça ferme des portes, mais...
Ouais, mais moi, je pense qu'il n'y a rien à saisir. Et je pense que même beaucoup d'artistes, si on pouvait leur parler encore, qui sont aujourd'hui décédés, ils diraient la même chose. Il y a une vraie liberté dans l'art. Et même ceux qu'on a dit qui étaient des artistes reclus, qui ont voulu être dans leur fond, qui ne voulaient pas avoir accès au monde, des ermites, etc. Mais je pense qu'eux-mêmes aussi, ils auraient été contents qu'on puisse ressentir des émotions en face de leur travail, sans forcément vouloir dire que c'est la mort du père, qui est le viol de sa fille, qui a voulu faire... Non mais voilà, donc il n'y a pas d'obligation. Alors c'est sûr, quand tu vois la petite Madeleine de Rodin, tu dis oui, alors c'est parce qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant, donc... Mais limite, même si tu ne connais pas l'histoire, et que tu vois ce biscuit, là, ce marbre avec les yeux maladies, tu n'as pas besoin en fait, ça fait peur, il y a un côté intriguant, etc. Mais tu as besoin d'avoir l'explication. Et puis souvent, tu as des gens qui ont fait des explications post-mortem. Hein. Les gens n'ont jamais voulu dire ça, ils ont dit « Ah ouais, non mais là, il a voulu dire ça parce que je connais bien. » Mais enfin, qui te l'a dit en fait, voilà.
Et justement, pareil sur cette accessibilité de l'art, est-ce que c'est justement pas parce que c'est inaccessible que ça intéresse ? Je ne sais pas si c'est clair dans ce sens-là, mais est-ce que ce n'est pas justement cette rareté de l'art qui va éveiller une curiosité ? Est-ce que si
c'était
chez les gens qui s'y intéressent justement, mais est-ce que si c'était répandu et accessible à tous, ce serait de l'art ?
Bah, si tu vas dans les rues de Barcelone, de New York, et que tu as du street art partout, donc tu dis que ce n'est pas de l'art dans ces cas-là, parce qu'il y en a partout. Hein.
Selon certains, non ?
Oui, bah pour moi, c'est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, la matérialisation de pensées, d'émotions, de vie dans ces transcriptions qu'il y a sur des murs. Tu as toutes les émotions, tous les sentiments, tout le vécu des artistes qui mettent toute leur âme parfois dans ce qu'ils mettent. Et qu'est-ce qu'il y a plus beau que ça ? Oui, bien sûr que c'est de l'art, c'est évident. Donc ça n'a pas besoin d'être rare. C'est rare parce que c'est sur le mur. C'est ça, la rareté, elle est là. La rareté, elle est là, mais elle peut se matérialiser dans des musées, elle peut se matérialiser sur des immeubles, elle peut se matérialiser, moi, à la maternelle, je suis sûr qu'il y a des dessins qui pour moi, c'est de l'art. Donc c'est de l'art. Et tu peux faire des expositions de dessins de maternelle. Il y a des émotions, tu trouves des choses, il y a des choses incroyables. Et des enfants encore plus qui veulent dire des choses parce qu'ils représentent leurs parents, parce qu'ils représentent... Et il y a des choses qui sont très très belles justement. Et tu peux pleurer devant des dessins d'enfants de 3 ans ou de 4 ans. Et donc oui, c'est ça l'art. Ça encore mettre quelque chose dans une case. Ça n'a pas de case, l'art il s'exprime autour de nous. L'art on le vit tous les jours. Donc après, la rareté, je pense que c'est plus une connotation ou une qualification financière. Parce que c'est plus pour ça, c'est rare, donc il y en a moins, c'est une série limitée, donc ça coûte plus cher. Là, je pense qu'on parle plus money, quoi. On ne parle pas émotion. Hein. L'émotion, ça n'a pas de prix, ça ne s'achète pas.
Justement, vous, il vous est arrivé, notamment récemment, de produire des œuvres à l'échelle industrielle. Mm-hmm. Est-ce que ça vous a été reproché ? J'imagine que oui.
Oui, bon, comme tout ce que je fais est reproché. Donc c'est pas, il n'y a pas un truc particulier pour ça. C'est dans le lot des choses. Mais bizarrement, pas tant que ça finalement. Il y a d'autres choses qui ont pu choquer. Enfin, c'est...
Comme ?
Ouais. Non, tout. Le fait d'exposer, comme je dis, sur des plateaux télé, le fait d'être vu avec des candidats de télé-réalité, je ne sais pas, n'importe quoi, d'être avec des politiques. Enfin, il y a moi, pour moi, justement, l'art c'est partout, donc il n'y a pas de règles, ou que je fasse de la musique. Voilà, après, sûr qu'au début, j'ai commencé en fait cette activité de. Alors, c'est pas vraiment industriel, en tout cas, c'est produit en série avec Disney. Parce que grâce à Disney, on a fait le Mickey Sorcier, du coup, et on a vu à quel point les gens étaient tellement contents d'avoir une reproduction d'une sculpture originale et accessible à des prix vraiment défiant toute concurrence. Ça m'a donné l'idée de continuer, et Disney m'a aidé à cette démocratisation.
En préparant cette interview, du coup, au cours des dernières semaines, vous êtes partout. Enfin, moi, je marchais jusqu'à Saint-Lazare, et il y a trois boutiques qui succèdent avec... Je ne sais pas si c'est des vrais, mais je suppose.
Ah, je ne sais pas, peut-être, ouais, je ne sais pas.
Ça fait quoi de voir ces œuvres justement dans les mains de tout le monde et partout et que vous soyez un nom sur toutes les lèvres ? Est-ce que c'était un objectif ou est-ce que...
Non, c'est une fierté parce que de pouvoir partager avec le plus grand nombre, moi c'est le partage. Transmission, partage, c'est des valeurs qui me touchent beaucoup. Et en fait, ça me permet de faire beaucoup d'autres choses aussi. C'est ce côté... que vous auriez appelé peut-être notoriété, ça permet en tout cas de pouvoir faire des projets, de faire du caritatif. Je suis impliqué dans une cinquantaine d'associations et de fondations à travers le monde qui des malades contre les maladies, pour les enfants, la défense des femmes, enfin les animaux, enfin plein de projets en tout cas, plein de sujets qui me tiennent à cœur. Et ben tout ça, ça me permet de pouvoir le faire, d'être là, de pouvoir aider, de que quand on a une bonne cause et qu'on fait don d'une sculpture, ben, que ça rapporte des sous. Parce que là, le sou, oui, c'est important. Faut pas être, on se cache, on se pince le nez en France avec les sous. Mais aujourd'hui, plus ton œuvre elle va coûter cher et plus elle va être vendue aux enchères et que ça va rapporter, et ben plus il y aura pouvoir de vaccins, plus tu vas pouvoir donner de l'argent pour la recherche, tu vas pouvoir payer des écoles pour les enfants qui n'ont pas l'accessibilité à la scolarité. Donc là, on parle d'argent. Et là, oui, là, now we're talking, là, c'est important.
Et il y a souvent cette croyance qu'on est un artiste seulement après notre mort. Je sais pas, c'est un truc qui est un peu inscrit dans les mentalités et qu'on nous apprend aussi, je trouve, à l'école où on nous fait étudier peu d'artistes contemporains. C'est quoi votre vision là-dessus?
Non, c'est des conneries, ça. Franchement, ça, non. C'est le mythe de l'artiste Van Gogh, mort à, voilà, le pauvre Van Gogh, mais je pense qu'il aurait été content de vendre ses toiles. Hein. Il n'en a pas vendu une seule, il en a vendu ici une, je crois, l'équivalent de 50 centimes d'euros. Il n'en a pas 800. Je crois que c'est fini ce concept-là. Et puis, non, d'être un artiste, non. Franchement, je vous dis, moi, dans ma conception de l'art, un enfant à 4 ans qui fait un dessin, c'est un artiste, c'est un jeune artiste. Alors, on a tous des capacités. On est avec des capacités, on les développe, on les développe pas. Et on a envie de les développer ou pas, c'est une envie aussi. Après, d'être un artiste reconnu, vendu, c'est autre chose. Après, tu rentres dans un marché, il y a les lois de l'offre et de la demande, t'es inspiré par des choses. Moi, ma chance, c'est qu'avec mes yeux, je vais en tout cas aimer, je suis pas niche du tout, en fait, je suis un peu le mec banal, comme monsieur, madame, tout le monde. Je vais aimer ce que vont aimer le plus grand nombre. Donc en musique c'est pareil, je vais aimer la musique commerciale, en art je vais aimer les trucs, mais ça m'a aidé parce que ça m'a permis en tout cas d'avoir cette réussite parce que je ressens les choses et comme je crée pour les autres, ben j'ai envie de plaire et donc plaire aux autres aussi c'est de leur donner quelque chose qu'ils seront contents de mettre dans leur salon, dans leur salle à manger et qui seront plaisir à regarder, qui apportera de la joie, de la vie et parce que mon côté est très tourné vers le bonheur, la joie, la vie, c'est des trucs très positifs hein, dans ce que j'aime créer. Donc du coup voilà, mais bon.
Parce que je pense que c'est ça aussi chez les jeunes qui les éloignent de l'art, c'est qu'on a l'impression que c'est un truc...
Un truc de vieux.
Un truc vieux, un truc terminé. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité justement de...
Éducative ? Ouais, de toute façon, le poids de l'éducation, il est très lourd. Et bah, on a vu dernièrement, en plus, on n'est pas très bon. Et tout ce qui se dit, je ne voudrais pas... Je ne suis pas ministre, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème dans l'éducation. Mais je pense qu'il existe depuis des années, en France comme en Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué les systèmes anglo-saxons, mais je pense que c'est quand même 10 fois mieux. Les vertus du sport, dans les écoles, en tout cas où j'étais, il n'y a même plus de sport. Il n'y a même plus de terrain, il n'y a même plus rien. Nous, on a carrément mis ça complètement, la compétition. Mais on se rend compte qu'effectivement, la méthode américaine qui vise à développer tous les sens pendant cette adolescence jusqu'à l'âge de 17-18 ans et ensuite se mettre vraiment à plancher et travailler, etc., ça marche beaucoup mieux. Peut-être, c'est sûr que si tu prends un Français qui a 18 ans et un Américain à 18 ans, le Français va être beaucoup plus compétitif, va connaître beaucoup plus de choses, mais à la finale, on rattrape. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les troncs communs aux États-Unis où tu peux prendre ce que tu veux, tu peux commencer médecin et finir ingénieur du son. Mais justement, c'est l'avantage parce que comment tu peux savoir à 14 ans, à 13 ans ce que tu as envie de faire dans ta vie? C'est impossible. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et donc, je trouve que le système américain qui permet d'avoir cette spécialisation beaucoup plus tardive, eh ben, tu as une ouverture d'esprit, tu reçois, enfin, c'est beaucoup plus malin. Et donc, je pense qu'on souffre de ça. Après, c'est pour d'autres raisons aussi. Il y a des raisons économiques, il y a des raisons, il faut que les enfants les maintiennent à l'école, on n'a pas les infrastructures sportives pour les accueillir, ce qu'ils ont eux aux États-Unis qu'on n'a pas nous. Mais bon, peut-être faut travailler là-dessus aussi parce que c'est les enfants, c'est l'avenir, c'est le monde de demain et c'est la France de demain.
Je pense qu'il y a une question de mentalité aussi au-delà des aspects financiers où on hiérarchise un petit peu les savoirs. Enfin, moi, j'avais cette impression-là que, par exemple, l'art plastique ou la musique...
Ah, ben, c'était le dernier. Le dessin et musique, c'était la flûte à bec. Tu faisais en sixième, tu faisais la flûte à bec. On n'en avait rien à foutre. Tu n'y allais pas, c'était pas très grave. Quoi. La note, elle comptait pas. Tu voulais avoir 18 ou 0, c'était la même chose. On ne va pas te déranger. Si t'as une mauvaise note en dessin, une mauvaise note en musique ou une mauvaise note en sport, franchement, c'était pas grave. Hein. Il n'y avait pas de conséquences.
Ouais, il faudrait revaloriser un petit peu.
Il faut revaloriser ces trucs, parce que c'est important.
Comment vous voyez le monde de l'art dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, C'est quoi les gros...
Les changements?
Ouais.
Je ne suis pas certain qu'il y ait de gros... Justement, l'art, c'est quelque chose qui est... encore, je reparle du physique, toujours de moi. Mais donc, il n'y aura pas d'évolution, en tout cas, sur une création artistique traditionnelle qui perdurera, à mon avis, pour l'éternité. Un tableau, ça reste un tableau. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. C'est que peindre... Après, il y a des courants qui peuvent être différents, comme on a eu le pop art, ou qu'on a eu de... voilà, y l'art moderne. Mais en tout cas, en termes artistiques, entre tableau, sculpture, ça restera toujours... Alors, dans la sculpture, on a certainement des moyens techniques beaucoup plus, comme on voit aujourd'hui l'imprimante 3D, beaucoup plus développés pour réaliser des choses plus rapidement, plus grandes, plus vite, avec peut-être des nouvelles technologies. Mais on s'est rendu compte que l'art, justement, c'est assez magique. C'est que si tu mets de la technologie dans l'art, ça enlève tout son cachet. Donc, en fait, l'art, et on le voit, même moi, je vois que dès que j'essaye de faire des choses, parce que parfois, on me dit, moi, j'ai des sculptures, par exemple, et on me dit, tiens, ce serait marrant que tu mettes un œil laser, etc., ou que tu mettes un système. Mais en réalité, c'est pas ça qu'on recherche. Les gens, quand ils recherchent de l'art, ils recherchent quelque chose justement d'assez simple, quelque chose qui est pas toutes ces, qui soit contraire. C'est pas une machine à laver en fait. C'est pas une machine à laver, c'est pas une chaîne à fil, c'est pas une voiture. Donc aujourd'hui, on a, et ça rassure. On a besoin de ça. C'est ce qui nous remet les pieds sur terre et qui nous rappelle d'où on vient. C'est un côté très témoignage historique quand on voit les statues anciennes de la Grèce, de l'Égypte, etc. Et on est dans le fil de ça, on s'inscrit, mais on continue là-dedans. Et dès qu'on veut en sortir, alors il y a toutes les formes d'art éphémère, effectivement, qui continueront, mais bon, c'est éphémère, comme son nom l'indique. Et avec aussi des choses avec des technologies, avec de la 3D, avec des choses qui sortent. Il y aura plein de choses certainement qui seront magiques, mais on n'enlèvera jamais, donc ça sera que de l'innovation, un peu comme de la science-fiction. Quoi. En fait, on va vivre la science-fiction et on aura des choses artistiques. Mais je ne sais pas si elles ont plus de valeur finalement. Ça ne va pas en tout cas remplacer, c'est éternel ce qui a été créé et ne changera jamais.
Il y aura une espèce de continuité. Quoi,
toujours. Avec toujours, parce que regarde, aujourd'hui, tu vas chez les méga collectionneurs, ils ont quelques trucs numériques, etc. Mais la plupart des collections, on reste sur des tableaux, sur des maîtres. Les maîtres resteront des maîtres. Ils ne vont pas être détrônés, quoi.
Et justement, dans ce sens-là, vous nous dites qu'il y a une espèce de continuité avec justement notre histoire qui est inscrite dans ces œuvres d'art qu'on peut voir au musée ou ailleurs. On a reçu Michel Onfray récemment. Il nous a dit que selon lui, il y avait des sous-cultures, enfin qu'on pouvait hiérarchiser les cultures.
Mais il ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer qu'une statuette d'art africain, par exemple, ça tient le coup en face du plafond de la chapelle Sixtine.
Vous, c'est une hiérarchisation de l'art.
Exactement. Du coup, je voulais vous entendre là-dessus. Oui, c'est assez
c'est étonnant.
Intéressant. Du coup, je voulais vous entendre là-dessus sur, justement, vous, on a l'impression que un peu tout se vaut et tout est...
Alors, on va revenir au money. Ouais. Money talking. Alors après, il y a des modes. Donc on est dans des modes, et d'ailleurs on le voit dans la fashion, mais on le voit dans l'art aussi. Il y a des choses qui deviennent désuètes ou qui existent mais qui n'ont plus de valeur, des bronzes qui n'ont plus de valeur. Il y a des artistes que j'ai pas envie de citer, qui étaient des grands artistes français de l'école de Nice et qui étaient très cotés, qui aujourd'hui sont beaucoup, beaucoup moins cotés parce qu'il y a une espèce d'évolution et il y a des artistes qui s'inscrivent dans la durée. Après ça c'est des questions de mode, des questions de... voilà, mais je pense pas qu'il y ait une hiérarchisation, en tout cas artistiquement. Pour moi, une œuvre, ça vaut une œuvre ou une autre. Après oui, il y a des gens qui ont. Alors là, on va parler plus de technique, de capacité d'interprétation, à faire des aplats de manière magnifique. Et là, on va dire que c'est des très bons techniciens qui vont être des meilleurs techniciens. Mais il y a beaucoup de bons techniciens. Donc après, je pense que c'est plus une question d'émotion, de cote, de réseau. Mais là, je pense que plus une cote. On parle plus dans ces cas-là de financière. Parce que, encore une fois, c'est très personnel. Il y a des gens qui vont s'émouvoir devant un masque africain et dire pour eux, ils sont complètement ébahis. Et puis d'autres, pas du tout. Et au contraire, donc c'est très compliqué d'être. On ne peut pas être juge. Enfin, qui on est, nous, pour juger qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal, puisque c'est complètement abstrait, en fait. Comment on peut dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien? En fait, nous, on peut dire, à mon avis, à mon goût personnel, je trouve ça joli et ça, je trouve ça moche. Bon, ça, oui.
Subjectif.
Mais c'est tellement subjectif. Là, puisque c'est quelque chose, justement, je pense que la fondation même de l'art, c'est la subjectivité. Sinon, c'est pas de l'art, c'est pas subjectif. Et on peut pas, voilà, on n'est pas dans un système communiste où on t'oblige à penser.
Je pense que on a aussi cette impression que l'art moderne, contemporain, est toujours très critiqué, alors qu'à l'inverse, les œuvres plus classiques, par exemple la chapelle Sixtine que citait Michel Onfray, sont toujours mises sur un piédestal. Est-ce qu'on a peur justement de ce renouveau?
Bah, tout ce qui est nouveau, ça fait toujours peur. Mais tout ce qui a été... regardez Andy Warhol qui a été décrié, qui a été au début parce que c'est un publiciste, qui a été... Aujourd'hui, on dit que c'est le génie du XXe siècle, qu'il a inventé quelque chose. Il a inventé et puis il touchait à tout. Il a fait du cinéma, il a fait de la musique, il a Velvet Underground, enfin, il a fait tout un tas de choses. Et il était super critiqué. Et puis après, ça change. Ça bascule et ça... Pour certains, pour d'autres non, mais...
C'est le temps qu'on s'adapte.
Oui, c'est une adaptation. Puis on revient encore à tous ces schémas avec l'entre-soi, avec les petits milieux qui favorisent. La FIAC, ça avait été créé pour les gens qui étaient, je crois, qui étaient les gens qui n'étaient pas reçus, c'était le salon des, je sais pas quoi, des mis dehors ou je sais pas trop quoi. Et finalement, maintenant, c'est eux qui mettent... Enfin, voilà, c'est tout le temps...
C'est un renouveau perpétuel. Ouais, c'était pareil pour, dans le milieu de la musique, pour le rap au début, où tout le monde crachait dessus.
Et... Exactement. Et puis aujourd'hui, force est de constater que c'est ce qui stream le plus, quoi.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que chaque semaine, nous partageons le débat dans notre newsletter. Le lien est dans la description. Également, mettre un petit like ou à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis à vous abonner pour nous soutenir. Ça fait toujours plaisir. À très vite.